Dupont. Je présente le journal d'Haïti et les Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à Port-au-Prince. La violence des gangs dans la capitale haïtienne évoquée hier par Jovenel Moïse dans une allocution diffusée sur les réseaux sociaux. Le président haïtien qui, pour la première fois aussi, s'est exprimé sur le sort des milliers de déplacés. La violence au Mexique contre les politiques et contre les défenseurs environnementaux. C'est le quatrième pays au monde où le plus grand nombre de militants écologistes sont assassinés. C'est notre dossier du jour. Et puis le premier tour des régionales et départementales à la une du journal de la première, Benoît Ferrand, aux Antilles et en Guyane, hein, comme en métropole d'ailleurs, l'abstention l'emporte et les sortants en tirent bénéfice.
Les pêcheurs à la ligne et les présidents sortants, à l'exception de celui de la Martinique, sont les grands gagnants du scrutin d'hier dimanche dans les trois départements français d'Amérique.
A tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous.
RFI.
Mais avant tout cela, commençons par l'information qui fait la une de la presse haïtienne depuis hier soir. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
L'ancien président Jean-Bertrand Aristide, positif au Covid, obtient l'autorisation de se faire soigner à l'étranger.
Ah oui, selon le Nouvelliste qui s'appuie sur des sources gouvernementales, Jean-Bertrand Aristide, 68 ans, ira se faire soigner à Cuba. Le président Jovenel Moïse a permis qu'Aristide obtienne un passeport diplomatique pour des raisons humanitaires, un passeport qui sera valide pendant un an. Seulement, l'ancien président a interdiction, en fait, depuis 2014, de quitter Haïti. Toujours selon la source du Nouvelliste, les autorités cubaines ont donné leur accord pour recevoir Jean-Bertrand Aristide, l'ambassadeur haïtien à La Havane, est chargé d'organiser les formalités diplomatiques. Il revient cependant aux proches et aux médecins de l'ancien président de décider quand il sera transféré à Cuba, écrit le Nouvelliste, le journal, qui a tenté en vain de contacter des proches d'Aristide pour avoir plus d'informations, Michael.
En tout cas, Arim, c'est un cas révélateur de la situation épidémique en Haïti. La pandémie progresse et les capacités d'accueil des hôpitaux, elles sont limitées.
Oui, et à ces capacités limitées s'ajoute un autre problème, celui d'insécurité. Selon le Nouvelliste, le centre de prise en charge d'Elmas 2, prise en étau par des affrontements de gangs armés à Port-au-Prince, pourrait être obligé de fermer ses portes.
Et justement, Arim, cette situation sécuritaire et ses conséquences dans la capitale, elle a été évoquée hier par Jovenel Moïse de retour de son voyage officiel en Turquie. Vendredi et samedi encore, les gangs ont pillé des commerces et dépôts de nourriture à Port-au-Prince. Amélie Baron, le chef de l'État, a dénoncé donc cette situation.
Port-au-Prince.
Port-au-Prince, c'est notre ville. La zone métropolitaine est notre zone. On ne peut pas la laisser devenir une zone de non-droit.
Les tournées ont zone de non-droit en général.
Jovenel Moïse s'est voulu ferme face aux gangs qui paralysent les activités dans la capitale. Dans son discours, il a rappelé combien la vie de ces criminels ne pouvait être que courte et qu'il fallait que la population soutienne les forces de l'ordre dans leur mission. Alors qu'il prononçait son discours diffusé sur les réseaux sociaux, en fond sonore, quelques tirs d'origine inconnue se sont fait entendre.
Nous là, pour nous supporter.
Nous sommes là pour soutenir à 100% la police afin de pouvoir dire que ces bandits ne peuvent continuer leur route. Les axes routiers bloqués partout dans le bas de la ville, dans le bas de Delmas. Je sais que la police est actuellement en train de mener des opérations et je la félicite. Sachez, policiers, que nous sommes derrière vous. Nous ne vous abandonnerons jamais. On ne peut pas rester sans rien faire et regarder les bandits mettre la main sur le pays.
Cela fait 3 semaines que des milliers de personnes ont fui Martissan face aux violences des gangs dans ce quartier de l'ouest de la capitale. Et c'est la première fois que le président haïtien évoque publiquement leur sort et celui des autres familles déplacées dans la capitale à cause des exactions des gangs.
Nous avons plus de 3000 personnes qui ont été déplacées depuis la zone de Martissan vers Carrefour. Nous avons plus d'un millier de déplacés dans la zone du Bas-Delmas. Je demande à la protection civile, au fonds d'assistance sociale et au Premier ministre, ici, à mes côtés, d'organiser aujourd'hui, dimanche, une réunion d'urgence pour que nous ne quittions pas ces gens-là où ils sont sans protection. Et à ces personnes, je leur dis que l'État ne reste pas sans rien faire. La police travaille afin qu'elles puissent retourner chez elles.
Sans avoir attendu cette réunion d'urgence ordonnée par le président 3 semaines après le début des violences, les autorités locales, les associations de Carrefour et les ONG humanitaires ont pris en charge l'assistance de ces milliers de personnes déplacées. Mais l'urgence reste de taille, surtout face au risque de propagation du coronavirus. Jude-Édouard Pierre est le maire de Carrefour et il s'inquiète pour les centaines de personnes réfugiées dans le gymnase de sa ville dans la plus grande promiscuité.
Leur situation, c'est très compliqué, puisque, au fait,
entassés dans une seule grande salle, et ne respectant aucune mesure barrière, et par rapport à la gestion parallèle de la pandémie, c'était très risqué, c'était vraiment très, très, très en désaccord total par rapport aux restrictions imposées.
L'espace est insuffisant, mais le matériel de base manque cruellement aussi dans le gymnase, comme l'explique le magistrat.
C'est compliqué parce que c'est moins de 30% qui ont un matelas. Quand on n'avait pas assez de matelas pour leur permettre de dormir, plus ou moins, je veux dire tout le monde, on n'avait pas assez. On a priorisé les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants à bas âge. Mais en termes de stratégie de retour, il n'y a quasiment rien aujourd'hui, hein, parce que les gens ne sont, ne doivent pas être là pour longtemps. Parce qu'on ne peut pas les garder indéfiniment dans cette salle où dormir est pour eux voilà, un enfer. Quoi.
Si le maire de Carrefour s'est organisé avec la protection civile, la Croix-Rouge, les associations religieuses, les agences des Nations Unies pour aider ceux qui avaient fui Martissant, il s'inquiète que ce provisoire qu'est l'hébergement dans le gymnase ne s'éternise, faute justement d'une stratégie pour aider les familles à se reloger. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Il est 9h16 à Port-au-Prince.
RFI, as vozes do mundo.
On évoquait la pandémie en Haïti, elle fait aussi toujours la une au Brésil. Arim, le pays est devenu le deuxième au monde après les États-Unis à dépasser les 500 000 morts du Covid.
Un pays au bord du précipice, titre le site d'information G1. Pour comprendre l'envergure de la catastrophe sanitaire, il suffit de préciser qu'un Brésilien sur 425 a été emporté par la maladie, écrit G1. L'hebdomadaire Carta Capital rappelle qu'il a seulement fallu 51 jours, donc même pas 2 mois pour passer de 400 000 à 500 000 morts. Selon des spécialistes consultés par Carta Capital, la troisième vague de la pandémie est en train d'arriver au Brésil. La crise est d'ordre sanitaire, mais aussi d'ordre politique, explique un médecin dans l'hebdomadaire. Car pour freiner la propagation du virus, compte tenu de la lenteur de la vaccination, il faudrait mettre en place des restrictions. Or, pour le président Jair Bolsonaro, qui continue à s'opposer aux gestes barrières et à toute restriction de circulation, eh bien la liberté est plus importante que la vie, résume Carta Capital.
Et pendant ce temps, Arim, cette pandémie a un impact sur le moral des jeunes brésiliens.
Oui, désillusionnés par la crise économique qui n'a fait que s'aggraver avec le Covid, la moitié des Brésiliens entre 15 et 29 ans souhaitent quitter le pays pour s'installer à l'étranger. C'est un chiffre record parmi tous les pays latino-américains. Et une étude publiée par le journal Folha de São Paulo.
Loin de la désillusion, au contraire. Merci Arim, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Les Cubains, ils manifestaient une fois encore hier pour appeler Joe Biden à lever l'embargo américain qui asphyxie l'île. Et à cette manifestation, surtout, est venue s'ajouter la fierté d'être parvenu à développer des vaccins anti-Covid made in Cuba. Reportage d'Omitie Piron.
Un vaccin malgré l'embargo. Au-delà de l'habituelle rhétorique contre le blocus américain ce dimanche à Matanzas, pour les Cubains comme Rainer Gomez, cette manifestation était aussi l'occasion de dire sa fierté.
Malgré le fait d'être un pays du tiers-monde et un pays sous embargo, il faut y croire et on voit aujourd'hui le résultat de l'œuvre de notre leader incontesté Fidel Castro quand il a rendu l'éducation et la santé gratuites.
Le vaccin Soberanados contre le coronavirus atteint 62% d'efficacité après la deuxième dose selon les autorités, quand l'OMS en préconise 50%. Il est donc sur le point d'être officiellement considéré comme un vaccin, ce qui réjouit la jeune étudiante en médecine Claudia Rodriguez.
C'est un rêve qui devient réalité. On peut enfin dire que nous avons un vaccin. C'est une réussite de notre révolution et c'est grâce à toutes ces années de conviction et de fermeté.
40% de la population a déjà reçu une première dose de Soberana ou Abdala, qui sont donc presque des vaccins. Pedro Pérez de la Fédération des étudiants s'en réjouit également.
Nous pensons devenir le premier pays d'Amérique latine totalement immunisé. Pour nous, c'est une réussite et nous sommes fiers.
Le blocus aussi est un virus mortel, scande le speaker, mais visiblement contre celui-ci, les Cubains n'ont pas encore trouvé l'antidote. Dimitri Piron, de retour de Matanzas, RFI.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Le 6 juin dernier, on a beaucoup parlé dans notre rendez-vous. Le Mexique a organisé ses méga élections législatives et locales à l'issue d'une campagne marquée par l'ultra-violence. Ce matin, à l'occasion de la nouvelle session du Conseil des droits de l'homme, Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits humains, a évoqué cette élection et appelé les autorités à un changement de braquet. Écoutez.
J'ai été alarmée par le niveau élevé de violence politique dans le contexte électoral. au moins 91 hommes politiques et membres de partis, dont 36 candidats aux élections, ont été tués pendant la période électorale qui a débuté en septembre 2020. Les partis politiques de tous bords ont été touchés et les femmes ont été confrontées à des violences, notamment sexuelles, ainsi que des campagnes de dénigrement. Il est essentiel de veiller à ce que les auteurs répondent de leurs actes afin de s'assurer que cela ne se reproduise pas. Pour l'avenir, j'encourage également les autorités à s'abstenir d'utiliser un langage qui porte atteinte à ceux qui expriment une opinion dissidente ou qui remettent en question de quelque manière que ce soit l'indépendance des institutions, y compris les institutions électorales.
Michel Bachelet, tout à l'heure devant le Conseil des droits de l'homme. Malheureusement, il n'y a pas que les politiques qui font les frais de la violence au Mexique. Les défenseurs de l'environnement eux aussi sont pris pour cible. Pas moins de 30 ont été tués au cours des deux dernières années. Plus généralement, deux tiers des militants écologistes tués dans le monde viennent d'Amérique latine. Un accord ratifié par 12 pays latino-américains est entré en vigueur il y a deux mois, tout pile, jour pour jour, pour les protéger. Au Mexique, Emmanuel Stills a rencontré certains de ces militants écologistes qui vivent sous la menace des assassinats.
Ce défenseur de l'environnement de l'État d'Oaxaca, dans le sud du Mexique, explique à quel point il est risqué pour lui de parler aux médias. Il s'oppose à un projet hydroélectrique qui inondera les terres de sa communauté, Paso de la Reina. Entre janvier et mars dernier, 5 militants qui luttaient à ses côtés ont été assassinés. Il décrit, sous couvert d'anonymat, un village en proie à la terreur.
Ces assassinats ont été commis pour nous intimider et pour que nous abandonnions la lutte. Mais notre combat est juste. À l'heure actuelle, les habitants de la communauté ont peur, notamment parce que nous ne recevons aucune protection de la part des autorités.
Suite à cette escalade de violence, le gouvernement mexicain a exhorté les autorités locales à assurer la sécurité de Paso de la Reina. Mais la police ne s'est pas présentée au village. Le Conseil des peuples pour la défense du Rio Verde, du nom du fleuve, regroupe 44 communautés qui s'opposent aussi au barrage. Ana Maria Garcia de l'organisation locale Educa décrit les raisons de leur combat.
Ce sont des communautés qui vivent de l'agriculture et de la pêche. Donc avec la construction du barrage, elles n'auraient plus accès au fleuve et à l'eau. En plus, ce fleuve alimente une des lagunes les plus importantes de la côte pacifique. C'est une réserve naturelle, une zone protégée qui comprend des mangroves et une très grande diversité en termes de faune et de flore.
Les habitants diffusent des témoignages vidéo pour exposer les ravages à venir qui menacent leur mode de vie. Au Mexique et en Amérique latine en général, les grands projets d'infrastructure et d'exploitation des ressources énergétiques se heurtent à la résistance des communautés autochtones et paysannes qui entretiennent un lien très fort avec leur territoire. Le Mexique est le quatrième pays au monde où le plus grand nombre de militants écologistes sont tués. Pourtant, un mécanisme de protection spéciale a été créé il y a quelques années qui prévoit des gardes du corps et des systèmes spéciaux d'alerte pour ceux qui sont menacés. Selon Edmundo del Pozo de l'organisation de défense des droits humains Fundar, ce programme a montré ses limites.
C'est insuffisant. Non seulement il n'y a pas de protection efficace pour les communautés, mais en plus, on constate que le gouvernement est dans une logique de promotion de ces grands projets qui provoquent davantage de conflits et de violations des droits de ces communautés.
Dans le sud-est du Mexique, la construction du train Maya, cher au président Andrés Manuel López Obrador, provoque le courroux des communautés mayas. Celles-ci n'ont pas eu leur mot à dire alors que ce train touristique traversera leur territoire. C'est justement dans ce domaine qu'intervient le traité d'Escazú, entré en vigueur en avril. Comme l'explique Juan Carlos Carrillo du Centre mexicain de droit environnemental, les mégaprojets devront faire l'objet d'une concertation avec les communautés locales.
L'accord d'Escuacu marque un tournant en matière de justice environnementale. Il combine la perspective des droits humains et la perspective des droits environnementaux. Un des grands intérêts de cet accord est qu'il propose un mécanisme de participation citoyenne de manière préventive, c'est-à-dire que les communautés doivent être informées et consultées avant la mise en route des projets au lieu d'être mises devant le fait accompli.
Les pays qui ont ratifié le traité d'Escazú doivent protéger le travail des défenseurs de l'environnement, garantir leur sécurité et leur accès à la justice. Ce texte donne une force inédite aux militants écologistes et il oblige l'État mexicain à intervenir dans ce qu'il considère trop souvent comme de simples conflits locaux.
Reportage Emmanuel Stills au Mexique. Et puisque l'on parle d'environnement, évoquons le climat. Je reviens vers vous, Arim Lipold, et cette vague de chaleur qui s'abat depuis plusieurs semaines sur l'Ouest américain avec des conséquences dramatiques pour les personnes vulnérables.
Oui, les semaines, les jours derniers, en fait, les derniers jours, le thermomètre à Phoenix, par exemple, a affiché 115 degrés Fahrenheit, donc à peu près 46 degrés Celsius. Selon le New York Times, cette vague de chaleur représente effectivement un véritable danger pour les personnes sans domicile fixe, toujours plus nombreuses dans cette ville. En fait, la hausse du marché immobilier contraint de nombreuses personnes à quitter leurs appartements climatisés pour s'installer dans des camping-cars, voire même carrément dormir dehors. C'est le cas de José Castro, que le New York Times a rencontré dans un parc à Phoenix. Sa femme et lui ont perdu leurs emplois à cause de la pandémie et ne peuvent plus payer leur loyer de 1 000 $. La ville de Phoenix a mis en place des centres d'accueil climatisés, mais José dit ne pas en être au courant. De toute façon, avec mon vieux téléphone portable, je ne pourrais pas les localiser, ces centres climatisés, explique-t-il aux reporters du New York Times.
La canicule qui a aussi entraîné une grande sécheresse dans l'Arizona.
Oui, les autorités pourraient restreindre l'utilisation de l'eau, selon le journal Arizona Republic, mais plusieurs clubs de golf dont l'arrosage se fait à partir des nappes phréatiques ont déjà annoncé s'y opposer. Écrit le quotidien, restreindre l'accès à l'eau menacerait l'existence de ces clubs, argumentent les propriétaires.
Arim Lipold, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
On votait bien sûr hier aux Antilles et en Guyane pour les élections régionales et départementales. Et comme en métropole, eh bien, le scrutin était marqué par une abstention record et une primo sortant.
Oui, il y a deux grands gagnants finalement. Les présidents sortants, à l'exception de celui de la Martinique, arrivé en deuxième position. Et les pêcheurs à la ligne, 65% d'abstention en Guyane, 68% en Martinique, plus de 69% en Guadeloupe. Le phénomène est déjà connu en Outre-mer et dans les départements français d'Amérique, mais il est toujours plus inquiétant. Écoutez à ce sujet la réaction du Martiniquais Louis Boutrin, conseiller sortant de la collectivité territoriale. Il est au micro de Bertrand Caruche.
Ceci nous amène à repenser les décisions que l'on prend et à repenser notre mode de fonctionnement dans cette société. On ne peut pas faire que des constats. Et pour que les électeurs puissent voter, il faut qu'ils soient éclairés. Donc ça cause un véritable problème en amont des instances décisionnelles. Il faut nourrir le débat citoyen à travers des forums, à travers... Et puis le mandat d'un élu, c'est un mandat général. Si les électeurs ont une préoccupation majeure, prenons un exemple concret. La problématique de l'eau, quelle garantie cet électeur a qu'en votant pour telle ou telle liste, il aura gain de cause ou il aura satisfaction? La démocratie représentative doit être nourrie en amont par une démocratie participative avec des processus que malheureusement on ne met pas suffisamment en cause. Et ça, c'est le rôle des partis politiques et des groupements qui constitutionnellement doivent concourir à l'expression du suffrage. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Autre phénomène notable de ce premier tour de scrutin, la troisième place surprise d'un nationaliste, Ronald de Salbonne, en Guadeloupe, avec presque 10% des voix, Éric Lefebvre.
Il n'y a qu'à se souvenir du score dérisoire réalisé par la liste de l'UPLG il y a 6 ans, moins de 700 voix, pour réaliser le chemin parcouru. Surtout, c'est une nouvelle génération qui porte désormais les couleurs rouge, jaune et vert. Fini l'omniprésence des militants issus du syndicalisme ouvrier et paysan, fini la surreprésentation des enseignants et autres avocats, et place à des activistes plus jeunes, rompus à la communication digitale et en prise avec les réalités entrepreneuriales. Le score réalisé hier par nous a fait rentrer de plein pied le nationalisme guadeloupéen dans le 21e siècle. Reste maintenant à Ronald Salbonne et ses amis à transformer l'essai, autrement dit réussir une réimplantation idéologique à long terme, sous peine de renvoyer tout un courant politique dans les oubliettes de l'histoire.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À vous et aux équipes de La Première qui refermaient ce journal d'Haïti et des Amériques à la réalisation aujourd'hui. Valentin Alves, très bonne journée à tous et à demain sur Radio France Internationale. Autour de